Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
C'est une des grandes énigmes de l'histoire maritime que Franck Ferrand nous propose de résoudre aujourd'hui. Bonjour Franck.
Bonjour Céline, bonjour à tous. L'énigme en question est donc celle de la Marie Céleste, ce vaisseau fantôme découvert en 1872 sans aucun passager à son bord. Et pour l'explorer, j'ai fait appel à notre loup de mer favori, l'écrivain Dominique Lebrun, pour qui la mer n'aura bientôt plus de secrets.
Et que ferez-vous à la fin de l'émission ?
Eh bien, je répondrai à la question de Caroline.
Exactement. Caroline vous demande de revenir sur l'origine de l'expression « il y a belle lurette ».
Eh bien, voilà. Ce sera la deuxième énigme du jour. Pour la première, nous allons embarquer, si vous le voulez bien. Nous allons prendre le large et essayer de retrouver cette Marie Céleste, vaisseau fou, errant sur les mers, tout imprégné de doutes et de mystères.
Au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Je m'apprêtais pour commencer à vous dire que l'affaire de la Marie Céleste était sans précédent et sans exemple, et je me dis que Dominique Lebrun aura plein de précédents et d'exemples dans sa musette et qu'il vaut peut-être mieux que je sois prudent. En tout cas, c'est un cas particulièrement intéressant sur lequel se sont penchés les meilleurs spécialistes pendant des décennies avant de parvenir à formuler un certain nombre d'hypothèses qui toutes sont crédibles finalement. C'est ça qui est le plus étonnant. C'est une histoire donc qui commence en 1872 à New York City, le soir d'Halloween. Ça tombe bien, on est déjà dans l'ambiance, il fait nuit. Il y a de la brume sur les quais de l'East River. Je vous parle de New York, mais attention, du New York de 1872. Il ne faut pas du tout imaginer la forêt de gratte-ciel que nous connaissons. Il n'existe pas encore à l'époque, évidemment. Même la statue de la liberté n'a pas encore vu le jour. Elle n'arrivera aux États-Unis qu'une quinzaine d'années plus tard. Nous sommes donc sur les quais et nous poussons la porte d'une taverne jusqu'à une petite table où sont installés deux amis, marins l'un et l'autre. Que dis-je marin ? Capitaine de navire, s'il vous plaît. L'un des deux s'appelle Morehouse, David Reed Morehouse. Il s'apprête à traverser l'Atlantique à bord d'un brick goélette canadien, plus exactement originaire de Nouvelle-Écosse. Le navire en question est un voilier à deux mâts. Il mesure 30 mètres de long sur 8 dans sa plus grande largeur, avec un tirant d'eau de 3,50 mètres environ. Il s'appelle le Dei Gratia, autrement dit la grâce de Dieu. C'est une circonstance à une époque où traverser l'Atlantique reste une aventure assez dangereuse. Morehouse doit transporter une cargaison mixte d'huile de baleine et d'alcool, rhum et whisky, à destination de différents ports de la Méditerranée, et il évoque les routes maritimes possibles avec son vieux copain. Alors qui est en face de lui ? Eh bien, c'est Benjamin Briggs, capitaine d'un autre brick goélette de la Nouvelle-Écosse, tout à fait similaire au premier, et qui s'appelle, nous y voilà, la Marie Céleste. Ça n'a d'ailleurs pas toujours été son nom. Au moment de son lancement, 11 ans plus tôt, en 1861, le navire s'appelait Amazon. Il n'a été rebaptisé Marie Céleste qu'au moment de son changement de pavillon quand il est devenu américain en 1868. Car depuis 4 ans, le navire appartient à la firme Winchester et compagnie, sachant tout de même que Briggs en est propriétaire pour un tiers. Lui aussi s'apprête à traverser l'Atlantique et une partie de la Méditerranée jusqu'à Gênes, avec dans sa cale, et ça c'est très important, quelques 1700 fûts d'alcool sur un lit de 30 tonnes de pierre pour le lest, parce que sinon ça ne serait pas une cargaison assez lourde. Il s'agit cette fois ni de rhum ni de whisky, il s'agit d'alcool destiné à renforcer des vins italiens, alcool qu'il est impossible de boire, je le précise tout de suite, vous allez voir pourquoi. Ce soir-là, à la taverne, les deux hommes décident de se retrouver aux Açores pour amorcer ensemble la partie du voyage jusqu'à Gibraltar. C'est la partie réputée la plus dangereuse du fait des courants qui sont puissants là-bas. Cette idée de se retrouver aux Açores rassure Briggs, qui est plus jeune. Lui n'a que 38 ans. Il est un petit peu moins expérimenté que Morehouse. Du reste, Briggs ne s'embarque pas seul dans cette longue traversée. Comme c'est la coutume à l'époque, il emmène avec lui sa jeune épouse, Sarah, et la plus petite de leurs enfants, Sophie Mathilde, qui a 2 ans. Le grand frère Arthur, qui lui a 7 ans et va donc à l'école, a été laissé à la garde de ses grands-parents maternels dans le Massachusetts. Sarah Briggs est une jeune femme saine et robuste, très comme il faut, dont la présence à bord est un vrai bienfait pour son mari, disons-le. Tout simplement, parler clair, grâce à elle, la maison sera tenue. Et puis, l'ambiance est tout de même plus douce quand même, vous avouerez. Notamment, Sarah Briggs a fait suivre à bord une sorte d'harmonium en bois de rose, ce qu'on appelle un mélodion, sur lequel elle joue des airs pieux. On est quand même dans un contexte très puritain, hein, c'est l'Amérique des années 1870. Néanmoins, cette intrusion d'une jeune femme et d'une petite fille à bord agace peut-être un peu certains matelots superstitieux et surtout misogynes. Briggs dispose d'un équipage restreint mais efficace. Le second Richardson, avec un lieutenant danois, un cuisinier, quatre matelots, des Dutchmen, ce qui, pour les Américains à l'époque, recouvrait des marins originaires indifféremment des Pays-Bas, d'Allemagne, enfin de tous ces pays de l'Europe du Nord. Pour l'anecdote, je signale qu'il y a aussi à bord le chat de la petite fille, un matou rayé gris qui s'appelle Tiger, le tigre. La Marie Céleste a donc quitté New York le 7 novembre de cet an de grâce 1872 et les premiers jours se sont déroulés sans encombre. Tous les deux ou trois soirs, le capitaine Briggs note sur le journal de bord les nouvelles de la traversée, rien que de très banal. Que se passe-t-il pendant ce temps-là à bord de l'autre voilier, le Dei Gratia? Eh bien là aussi, sauf à être un féru de navigation, il n'y a pas grand-chose à retenir. Le Briggs a quitté New York quatre jours plus tôt, le 11 novembre. À bord, les journées succèdent aux journées, avec de temps à autre un grain plus méchant ou une mer un petit peu creuse, et même deux tempêtes qui n'effraient pas tellement un capitaine expérimenté comme peut l'être David Morehouse. En fait, tout se passe bien jusqu'au 4 décembre, dans le début de l'après-midi. Et là, d'un seul coup, la traversée routinière va basculer dans l'extraordinaire. Il est exactement 13 heures quand la vigie signale une voile à l'horizon. Morehouse saisit sa lunette, on voit mal, quelques minutes encore et la vigie précise qu'il s'agit d'une autre goélette. Tiens, se dit Morehouse, on n'est pas loin des Açores et si jamais c'était Briggs avec la Marie Céleste? On se rapproche du navire qui paraît voguer un peu bizarrement par grandes embardées. Morehouse donne des ordres pour l'approcher encore. Or, déjà d'assez loin, le capitaine reconnaît la Marie Céleste. Mais ce qui est assez bizarre, c'est qu'elle ne soit pas déjà à quai aux Açores. Elle était partie plus tôt. Or, en même temps, Morehouse s'étonne de la voilure choisie par Briggs. Il a sorti seulement le foc et la trinquette, ce qui ne correspond pas au vent modéré de cette journée-là. Décidément, il y a quelque chose qui cloche. Et plus le Dei Gratia s'approche de la Marie Céleste, et plus Morehouse s'interroge. Il est maintenant tout près, il ne voit personne à bord, pas de vigie, personne à la barre. Mais on dirait un vaisseau fantôme. Morehouse attrape son porte-voix. « Ohé, Briggs, vous m'entendez? Ohé, vous avez besoin de secours ?» Pas de réponse, seulement le bruit du vent dans les mâts et les cordages. Cette fois, Morehouse sent l'angoisse s'emparer de lui. Il ordonne à son second, un Français qui s'appelle Olivier Devaux, dit « Oli », de mettre une chaloupe à l'eau et d'aller aborder la Marie-Céleste avec quelques hommes. Bien sûr, les ordres sont exécutés. Une demi-heure plus tard, Oli est à quelques encablures de la Marie-Céleste. Or, ce qu'il voit aurait de quoi glacer les sangs de n'importe quel marin. Comme dans les vieux contes de sirènes et de serpents de mer, le navire qu'il a sous les yeux paraît naviguer sans âme qui vive. C'est une goélette déserte, comme abandonnée, qui fait son chemin au milieu des vagues. La chaloupe se rapproche encore, Oli et ses deux matelots s'arriment à la coque, ils se hissent à bord à l'aide de filins cassés. Pour la forme, ils appellent, ils crient, ils sifflent pour révéler toute présence, même mourante. Mais ils n'ont pas besoin d'inspecter longtemps la Marie Céleste pour constater que ni Briggs, ni sa femme, ni sa fille, ni un membre quelconque de son équipage ne sont plus à bord. Olivier Devaux et ses hommes viennent d'entrer de plein pied dans une véritable histoire de vaisseau fantôme.
sur Europe 1, un extrait de l'opéra Le Vaisseau Fantôme, dirigé par Sir Georges Solti. Nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à notre vaisseau fantôme, la Marie Céleste.
Alors, des centaines d'articles, des dizaines de livres ont été écrits sur l'incroyable histoire de la Marie Céleste. On a tout dit à ce propos, tout est son contraire. Rien que sur l'état du navire au moment où le second du Dei Gratia et ses hommes l'ont inspecté, on a répandu les bruits les plus fantaisistes. Je vais donc essayer, si vous le voulez, de démêler un peu le vrai du faux. D'abord, ce qui paraît avéré. En ce 4 décembre, le navire est entièrement désert. La dernière mention sur le journal de bord remonte à 10 jours, le 24 novembre. Le dernier point sur l'ardoise de quart à 9 jours, le 25 novembre. Et sur le pont avant, deux panneaux censés fermer la cale sont retirés, ce qui offre des trous béants par lesquels des paquets de mer se sont engouffrés. Il y a environ un mètre d'eau dans la cale, mais ça provient sans doute en très grande partie donc de ces deux ouvertures dans le pont, tout simplement. Du reste, les pompes sont en parfait état de marche et d'une façon générale, c'est ce qui bien sûr va fasciner tous les spécialistes et va susciter tant d'interrogations, d'une façon générale, l'ensemble du navire est en parfait état. La cargaison, elle aussi, est en bon état, elle n'a pas bougé. Le garde-fou d'un côté du pont a été enlevé, comme pour laisser passer une chaloupe. Or, il n'y a plus sur le pont aucune embarcation de sauvetage. La cabine du capitaine a été envahie par les eaux, mais là encore rien d'étonnant. La porte se trouve grande ouverte, donc évidemment l'eau est allée jusque-là. Le lit est trempé, il restait défait, ce qui ne ressemble pas tellement aux habitudes de Mrs. Briggs, évidemment. Tous les ustensiles de cuisine, toute la vaisselle, tout est impeccablement lavé et rangé. Dans le poste d'équipage, même chose, tout est en ordre. Les hommes ont quand même laissé leur pipe, ce qui suppose une fuite quand même assez précipitée. En revanche, le sextant, le chronomètre, les livres de navigation ont disparu. Donc on les a pris, les personnes qui ont quitté le navire les ont visiblement pris avec elles. Surtout, et c'est la chose la plus importante, on ne peut pas relever sur le navire la moindre trace de violence. Rien de cassé, rien de déplacé, rien de déchiré, pas de balles fichées dans le pont ou ailleurs, pas de sang. Bref, aucune trace de violence. Dieu sait si certains auteurs, contre tous les éléments disponibles, ont prétendu le contraire, évidemment, car maintenant que nous avons noté les observations faites par Olivier Devaux et les deux témoins, il faut tordre le cou à un certain nombre de contre-vérités. On a dit que des tonneaux d'alcool avaient été défoncés. C'est faux. Ils étaient tous intacts, sauf un dont la bonde avait sauté, mais apparemment par accident. On a dit que l'harmonium de Sarah Briggs avait disparu. C'est faux. Il appartient toujours à ses descendants à l'heure où je vous parle. On a dit que du thé encore fumant et des morceaux de poulet se trouvaient servis dans le carré. C'est faux, archi faux. Toute la cuisine était en ordre. Bref, que n'a-t-on pas dit ? Il me semble que l'affaire est suffisamment extraordinaire sans qu'on ait besoin d'en rajouter, n'est-ce pas ? Quand le second fait au capitaine Morehouse son rapport sur ce qu'il vient de découvrir à bord de la Marie Céleste, il n'hésite pas un instant quant au parti à adopter. Il faut savoir en effet qu'un navire entièrement abandonné est considéré comme une épave. Or, les lois maritimes ouvrent des droits pour les découvreurs d'épaves sur la moitié des primes d'assurance et la moitié de la valeur embarquée. 1700 tonneaux d'alcool à l'époque, ça représente quelque 37 000 $ de l'époque. Évidemment, Morehouse ne va pas laisser passer une si belle occasion. Quelle que soit par ailleurs sa peine éventuelle sur la disparition de la famille Briggs et de son équipage, ça nous n'en savons rien. En tout cas, il a bien l'intention de ramener le navire à bon port. Le capitaine donne donc l'ordre à son second de retourner avec quelques hommes sur la Marie Céleste, de s'en rendre maître et de la conduire dans son propre sillage jusqu'à Gibraltar, ce qui va donc être fait. C'est ainsi que, le soir du 12 décembre 1872, le Dei Gratia fait son entrée dans le port de Gibraltar et que le lendemain matin, le 13 décembre, la Marie Céleste, déjà nimbée d'une funeste réputation, pénètre à son tour dans le port. Les deux navires se retrouvent donc côte à côte, comme la guerre à New York. On pourrait croire que l'histoire va s'arrêter là. En réalité, la si célèbre affaire de la Marie Céleste ne fait que commencer, évidemment. En effet, un dossier est tout de suite ouvert à Gibraltar enclave britannique, Dossier ouvert par le procureur général, avocat général de la reine, procureur de sa gracieuse majesté auprès de l'amirauté, un bonhomme revêche de 71 ans qui s'appelle Sir John Solly Flood. Dès le 18 décembre, Flood, qui ne cache pas d'entrée de jeu combien cette affaire lui paraît louche, interroge très longuement les trois hommes qui, les premiers, sont montés à bord de la Marie-Céleste. Olivier Devaux, reprenant tous les éléments dont il dispose, conclut qu'à son avis, l'ensemble des occupants de la Marie-Céleste a fui le navire à la suite d'une entrée d'eau massive, ce qui, entre parenthèses, se trouve contredit par ses propres constats sur le faible niveau d'eau dans la cale d'une part et sur l'état de marche de toutes les pompes. Par ailleurs, si vraiment il y avait eu de l'eau à bord, on aurait pompé, tout simplement. Bon, vous allez voir qu'on n'est pas au bout de nos peines. La veille de Noël, le procureur se rend lui-même à bord avec des inspecteurs, des scaphandriers, etc. Il va faire une inspection très poussée, au cours de laquelle il relève des traces de ce qu'il croit être du sang et qui se révélera n'être en vérité que de la rouille. Il y retournera avec 4 officiers de marine quelques jours plus tard, le 7 janvier exactement. Il faut dire que les choses sont, somme toute, assez singulières. Le procureur Flood ne va avoir de cesse, dans les semaines qui suivent, de traquer le moindre indice pouvant aller dans son sens. Il s'est en effet forgé très vite une intime conviction, sachant que les deux capitaines se connaissaient très bien, il est convaincu qu'ils se sont entendus à New York avant leur départ pour toucher la prime. Ce qui est aberrant quand on sait que Briggs était propriétaire d'un tiers du navire et qu'il avait tout à perdre à ce genre de magouille. Si tant est qu'un homme pieux et droit comme lui ait jamais eu la tentation de s'y livrer. Mais enfin ça, après tout, on a vu d'autres accommodements avec le diable, avec le ciel. Voyant que les preuves lui manquent, le procureur Flood se rabat ensuite sur une autre hypothèse, celle de la mutinerie. Pour lui, l'équipage, qu'il ait été ou non de mèche avec Morehouse, se serait mutiné contre Briggs et sa famille avant d'abandonner le navire, soit par accord passé avec le capitaine du Dei Gratia, soit sous l'effet de je ne sais quelle crainte ou mésentente survenue plus tard. En attendant, le procureur sera bien incapable d'apporter une preuve quelconque de ce qu'il avance. Et le 15 mars, donc après quand même 87 jours de séquestre, la Marie-Céleste est déclarée libre de regagner sa destination initiale de Gênes et Morehouse en droit de percevoir une prime, mais fixée à seulement 1/5 de ce qu'elle aurait dû être. C'est quand même un drôle de justicier, si je puis dire, ce Flood. Vous avouerez que c'est un peu bizarre. En attendant, en cette année 1873, le mystère de la Marie-Céleste demeure entier. C'est la première fois depuis sa création que la cour de la vice-amirauté reconnaît son impuissance à résoudre une énigme maritime. My God!
Et nous vous rappelons, chers auditeurs, que vous pouvez réagir tout au long de l'émission. Nous envoyez vos messages, vos questions par mail sur europe1.fr, Twitter, celui de Franck Ferrand ou hashtag ACDH, ou encore sur la page Facebook de l'émission. Dans un instant, sur Europe 1, la suite de votre récit Franck Ferrand sur la Marie-Céleste.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, au mystère de la Marie-Céleste.
Vous imaginez bien, Céline, que cette histoire vraie d'un vaisseau fantôme était faite d'emblée pour titiller l'imagination de tous les détectives professionnels ou amateurs. Évidemment, une abondante littérature va paraître sur ce qui s'impose vite comme le plus fascinant de tous les mystères. Alors, toutes les explications jusqu'au plus farfelu vont être apportées pour tenter de résoudre l'énigme. Certains évoqueront l'attaque des occupants de la Marie-Céleste par une pieuvre géante. Bah, pourquoi pas. D'autres vont faire appel à je ne sais quelle extension spontanée du triangle des Bermudes qui se serait dilaté d'un seul coup. Sans oublier l'hypothèse des extraterrestres, hein, puisqu'il y a quand même 2 livres qui ont été écrits entièrement là, sur ce sujet. Le très populaire Strand Magazine aura même l'idée très séduisante de demander à plusieurs grands romanciers d'imaginer leur solution de l'énigme. Et on va voir des maîtres, hein, comme Sir Arthur Conan Doyle, par exemple, proposer leur version du drame. Toutes sortes de survivants imaginaires seront mobilisés par la suite, faisant rêver des générations d'aventuriers en herbe. Alors, parmi les solutions romanesques, la plus fouillée, la plus séduisante reste celle concoctée après la Première Guerre mondiale par un certain Keating, Je vous la résume à grands traits. Le capitaine Morehouse, donc du Dei Gratia, aurait prêté 3 hommes d'équipage au capitaine Briggs, qui avait éprouvé des difficultés à recruter. Il était prévu que les 2 navires se retrouvent donc aux Açores. Or, le capitaine Briggs et sa famille auraient beaucoup déplu au second de la Marie Céleste. Et au cours d'une tempête, le pesant harmonium arrimé au mur du salon se serait détaché, aurait écrasé Mrs. Briggs, rendant le capitaine soudain veuf fou de douleur. Quand je dis fou, c'est littéralement fou de douleur. L'équipage en aurait à ce moment-là profité pour se saouler, bagarre générale. Le capitaine, pour se suicider, se serait jeté à l'eau. Après quoi, l'équipage aurait abandonné la Marie Céleste au large des Açores pour ne pas avoir à rendre de compte à celui du Dei Gratia et à l'amirauté. Bon, le problème, c'est que pour élaborer cette version très romanesque, Keating a eu recours aux prétendues confidences d'un survivant qui s'appelle Pemberton, et des confidences qui se révéleront, après vérification, tout à fait imaginaires. Le scénario, il faut bien le dire, a l'air comme ça assez séduisant, il est très romanesque, mais il est faux. Et d'ailleurs, je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a jamais eu à bord d'alcool buvable, en tout cas en quantité suffisante. Au final, si dans cette affaire, quelqu'un s'est approché, me semble-t-il, de ce qu'a pu être sans doute la vérité, et je vais m'empresser de poser la question à Dominique Lebrun dans un instant pour savoir ce que lui-même pense de cette affaire, si quelqu'un s'en est approché, c'est, me semble-t-il, le patron de la firme Winchester, propriétaire principal de la Marie Céleste. Il s'appelait le capitaine Winchester et il avait traversé l'Atlantique à son tour pour se présenter au procureur Flood à Gibraltar le 15 janvier. Comme sa thèse ne cadrait pas avec les certitudes de l'homme de l'amirauté, on a préféré sur le coup ne pas donner suite à sa théorie. Mais plus d'un siècle plus tard, force est de considérer qu'elle est, cette théorie, assez convaincante. Elle explique tout par la nature même de la cargaison. La Marie Céleste transportait de l'alcool commercial, donc non buvable, je vous l'ai dit, stocké dans des tonneaux cerclés d'acier qui étaient eux-mêmes arrimés dans la cale sur, je vous l'ai dit, un lit de lest. À l'approche des Açores, sous l'effet d'une chaleur de plus en plus forte, l'alcool liquide s'est mué en gaz qui a dû commencer à s'échapper par infime quantité, s'échapper des fûts pour venir se concentrer dans cette cale hermétiquement close. Arrive là-dessus la fameuse tempête dont je vous ai parlé, qui par frottement des cercle d'acier a dû provoquer des étincelles qui ont pu mettre le feu au gaz, d'où une ou plusieurs détonations qui ont dû laisser penser aux occupants du navire qu'il allait exploser. De sorte que sitôt le calme revenu, les occupants n'auraient rien eu de plus pressé que de grimper sur le canot de sauvetage, sans doute relié au navire. Seulement, il y a eu une rupture provoquée soit par un coup de vent, un coup de mer, que sais-je, et l'embarcation de sauvetage a fait naufrage. Quant à la Marie Céleste, eh bien, elle est donc demeurée seule, vide et errante. Mais enfin, ont objecté les gens de mer, comment un capitaine aurait-il quitté son navire pour de simples détonations dans la cale? Il faut croire qu'il avait été impressionné, à moins que le capitaine lui-même n'ait été souffrant à ce moment-là, voire déjà mort. Après tout, on n'en sait rien. Au moment où s'est produit l'incident, on n'en saura jamais rien. Je me dis, moi, que c'est peut-être ce qu'il y a de plus beau dans cette affaire de la Marie Céleste, l'infinité de scénarii qu'elle rend possible. Bonjour Dominique Lebrun. Alors évidemment, la première chose que nous allons faire avant d'évoquer un certain nombre d'autres cas de vaisseaux fantômes, de mystères et d'énigmes maritimes, c'est de vous demander votre avis à vous. Quelle est la véritable solution de la Marie Céleste selon Dominique Lebrun? C'est dans un instant.